bien longtemps qu'on n'a pas fait de message d'exposition. Un message d'exposition, c'est quand on prend un passage ou toute une épître ou un livre de la Bible et on prend chapitre par chapitre. Parce que ça nous oblige à voir des versets qu'on ne verrait pas autrement. Et ça nous oblige à regarder dans la parole de Dieu sans la tordre, vraiment. Voilà, qu'est-ce que Dieu me dit dans ce passage, dans ce livre ? Alors, dans la première épître à Timothée, je vais la prendre sous un certain angle. Normalement, c'est ce qu'on appelle une épître pastorale, c'est-à-dire c'est l'apôtre Paul, qui explique au jeune pasteur Timothée comment se conduire dans la maison de Dieu, comment diriger l'Église, etc. Mais l'angle que je vais prendre, c'est les choses qui comptent vraiment. Dans la vie, on fait pas mal de choses qui ne comptent pas vraiment. Et surtout quand on est jeune, on gaspille son temps. Et c'est plus tard qu'on se dit « Ah, si j'avais réfléchi !» Il y a des choses qui comptent et des choses qui comptent moins. Et parfois, on manque de sagesse et on se donne à fond dans quelque chose qui ne compte pour rien. Alors que Dieu voudrait nous montrer par son esprit, par sa parole, les choses qui comptent vraiment dans la vie. Qu'on puisse dire à la fin de sa vie, eh bien, j'ai combattu le bon combat. C'est ce que dit Paul dans cette épître. Et à nous donc de regarder dans la parole de Dieu ce qu'il y a pour nous. Donc, je vais lire, tu enregistres Mike ou pas ? Oui. Je vais lire les premiers versets. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu notre Sauveur, et de Jésus-Christ notre espérance. À Timothée, mon enfant légitime en la foi, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je te rappelle l'exhortation que je t'adressais à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin, qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Je vais m'arrêter là. Et dans ce passage, nous trouvons donc d'abord la salutation de Paul. Aujourd'hui, quand on écrit une lettre, on a tendance à signer à la fin. Eh bien, à cette époque-là, on signait au début. Et aujourd'hui, on y revient finalement parce qu'avec les emails et les choses comme ça, on a son nom en haut qui apparaît. Donc, on signe aussi un peu au début maintenant. Mais Paul se présente comme un apôtre de Jésus-Christ par ordre de Dieu, notre Sauveur. Là, c'est très clair qu'il ne s'est pas appelé apôtre tout seul. Il a été appelé, il a reçu un ordre du Seigneur et c'est vraiment le côté militaire là. C'est le soldat qui est là et le commandant lui dit, voilà ton ordre de marche. Ton ordre de marche, tu vas aller là et tu vas faire ceci et cela. Et Paul était un soldat pour Christ. Autant il avait été un soldat pour le judaïsme avant de connaître Christ. Et c'était un soldat violent, puisqu'il cherchait à arrêter et faire tuer les chrétiens. Autant après sa conversion, il est devenu un soldat de l'amour. Et il va en parler ici. Un soldat qui apporte la bonne nouvelle de l'amour de Jésus-Christ. C'est merveilleux d'être apôtre. Aujourd'hui, il n'y a plus d'apôtres, puisque les apôtres, ce sont ceux qui ont vu Jésus ressuscité. Paul a eu ce privilège, même après la résurrection, bien après la résurrection, puisqu'il a vu Christ dans le ciel qui lui a dit « Pourquoi me persécutes-tu » Et c'est en cela qu'il a droit au titre d'apôtre. Mais apôtre, ça veut dire envoyé, en fait, hein. Envoyé de Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus envoie des hommes et des femmes dans le monde. Il leur donne un ordre de marche. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux lorsque on est un envoyé du Seigneur. Il parle de Jésus-Christ, notre espérance, toujours dans le verset 1. Par ordre de Dieu, notre Sauveur, et de Jésus-Christ, notre espérance. Là aussi, c'est une façon différente d'appeler Jésus-Christ. Il y a notre Sauveur, notre Seigneur, notre Rédempteur, notre Berger. Mais là, il dit notre espérance. Et Paul avait mis toute son espérance en Christ. D'abord, il attendait que Christ revienne. Il va en parler dans cette épître aussi. mais aussi tout ce qu'il espérait dans la vie venait de Jésus-Christ. Parce qu'il avait eu beaucoup de déceptions, notamment de la part des chrétiens. Paul a été, on peut dire, abandonné, hein, il va le dire dans les épîtres pastorales. Il n'y avait que Luc, à un certain moment, qui était tout seul pour le soutenir. Quand il était en prison, un certain nombre de chrétiens l'ont complètement négligé, l'ont laissé croupir dans son cachot. Seuls certains amis chrétiens sont venus lui rendre visite et le soutenir, lui apporter un manteau ou des choses comme ça dont il avait besoin. Il a vécu des moments non seulement de solitude extrême, mais aussi de violence, de brutalité lorsqu'il a été lapidé, lorsqu'il a été attaqué, lorsqu'il a fait naufrage. C'est quelqu'un qui a bourlingué, comme on dit, qui a vu beaucoup de choses. Et c'est avec son expérience qu'il parle, mais il dit au fond, mon espérance, c'est Jésus-Christ. Je crois que c'était aujourd'hui que Chad Gamble, ce jeune évangéliste qui a prêché dans notre église en juin, faisait le point un petit peu. Il dit, j'ai tellement de choses à faire, je suis complètement débordé. Dans son église, là-bas aux États-Unis, il est très, très demandé, avec le groupe de jeunes, avec l'enseignement, le sport, etc. Et il dit, j'ai été un peu noyé ces derniers jours, jusqu'au moment où j'ai réalisé que je dois m'appuyer sur le Seigneur seul, que je sers le Seigneur. Je ne sers pas juste une église ou quelque chose, mais c'est le Seigneur. Et il dit, ça m'a remis vraiment les pendules à l'heure et j'ai vu clair d'un seul coup sur ce que je devais faire alors qu'avant ça, j'étais complètement noyé. Et ça peut arriver dans la vie qu'entre le travail, la famille, les soucis, les problèmes, on soit un peu noyé. Et là, on peut se rappeler les choses qui comptent vraiment. Ce qui compte vraiment, c'est Jésus-Christ, notre espérance. C'est ça qui ne bougera jamais, qui est absolument vrai. Vous ne serez jamais déçus par Jésus-Christ. Les chrétiens peuvent nous décevoir. L'Église peut nous décevoir. Mais Christ ne nous décevra jamais. Au verset 2, il écrit à Timothée, mon enfant légitime, c'est qu'il a amené Timothée au Seigneur. Donc c'est son enfant dans la foi. Et ça aussi, c'est une belle expression, d'avoir des enfants dans la foi. Ça, c'est magnifique d'avoir une belle famille, d'avoir plusieurs enfants dans la chair, mais c'est encore plus beau d'avoir des enfants dans la foi. Parce que d'abord, vous pouvez en avoir beaucoup plus. Vous pouvez amener des centaines de personnes au Seigneur, tandis qu'avoir une centaine d'enfants, c'est compliqué. Et puis, ce sont des personnes que vous allez retrouver dans l'éternité, vous allez vous réjouir ensemble. Gagner des âmes, c'est quelque chose de magnifique pour le Seigneur. Que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ. Ça, c'était la salutation chrétienne, la grâce et la paix. Là, il rajoute la miséricorde. On dit que les Juifs se disaient paix, hein, shalom, pour se saluer. Les Grecs disaient charis, grâce. Et puis Paul, il rajoute en plus la miséricorde. C'est pour tout le monde. Dieu est un Dieu de miséricorde. Et puis, il commence avec une exhortation. Je te rappelle l'exhortation, verset 3, que je t'adressais lorsque je t'engageais à rester à Éphèse. Timothée était le pasteur de l'église d'Éphèse, une grande église, une église très impressionnante quand vous lisez l'épître aux Éphésiens. Une église qui a eu un moment difficile lorsqu'elle a perdu son premier amour, ce que l'on trouve en Apocalypse. Et Timothée était le pasteur principal, je pense, et il était aidé d'autres anciens avec lui. Il dit, « Recommande à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines, de ne pas s'attacher à des fables et des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. » Ça, c'est le premier point ici, les choses qui comptent vraiment. Il y avait dans l'église d'Éphèse des personnes qui étaient très attachées, il le dit, hein, qui s'attachent, très prises par les fables et les généalogies. Alors les fables, c'était quoi? Il semblerait là que c'était des judaïsants, c'était des juifs qui avaient cru en Jésus, mais qui étaient attachés à toutes sortes de fables rabbiniques, d'histoires à coucher dehors ou à dormir debout, comme vous voulez, les contes des mille et une nuits, et toutes ces histoires bizarres, en fait, étaient extraordinaires, mais elles n'avançaient pas l'œuvre de Dieu dans la foi. Les généalogies aussi étaient très importantes. Et c'est vrai que dans la Bible, les généalogies sont très importantes puisqu'elles sont reliées avec le Messie. Le Messie a sa généalogie et si, sans généalogie, il ne peut pas prétendre être le Messie, le roi d'Israël, le roi descendant de David. Mais là, c'était poussé à un tel point qu'on chipotait, mais est-ce que tu es sûr que tu es dans telle tribu, et moi je me demande s'il est vraiment de cette tribu, s'il n'y a pas eu un croisement, et puis on regardait la famille d'un tel, et finalement on s'occupait de choses qui n'avançaient pas l'œuvre de Dieu dans la foi. Des choses autour de la Bible, autour de la foi, mais qui n'étaient pas centrées sur Dieu et sur Jésus-Christ. Et on peut critiquer les Juifs de cette époque, mais nous sommes tentés de faire les mêmes choses. Il y a des gens qui s'occupent de plein de choses autour de la Bible et de la foi. Donc ça peut être, je parle pour moi, ça peut être l'archéologie. Hein, l'archéologie, c'est une matière passionnante qui parle beaucoup de choses bibliques. Mais si vous êtes tout le temps dans l'archéologie, vous passez à côté de l'œuvre de Dieu dans la foi. Il y en a, ça va être la musique. Ah, moi, je suis passionné de musique. Je veux faire des concerts pour Dieu, je veux jouer pour l'Église et c'est formidable. Mais on peut être tellement pris par la musique qu'on n'avance plus l'œuvre de Dieu dans la foi. J'ai visité beaucoup d'églises et notamment aux États-Unis et il y a là des musiciens souvent plus ou moins professionnels et on sent que la musique est en premier dans leur vie et que Dieu est en second. Et que s'ils sont sur l'estrade ou sur la scène, n'est-ce pas, de l'Église, c'est plus pour la musique que pour Dieu. La façon dont ils en parlent, la façon dont ils jouent, ça ne donne pas gloire à Dieu autant qu'il le pourrait, parce que quelque part, ils se sont laissés emporter par la passion de la musique. Et on peut tous se reconnaître, on peut tous avoir des choses qu'on aime bien dans la Bible, ou dans la foi chrétienne, ou dans l'Église. Moi, j'aime bien l'Église, j'aime bien préparer la cuisine à l'Église, voilà. Non, moi j'aime bien organiser les sorties de l'église. Non, moi j'aime bien m'occuper des enfants. On peut avoir plein d'activités, mais les choses qui comptent vraiment, ce sont les choses qui avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Parce que notre Dieu a un plan, un dessein, un but, et il avance vers ce but. Et nous, parfois, nous retardons l'œuvre de Dieu en nous dispersant, nous éparpillant et en ne regardant pas vers ce but. Au lieu de regarder à Christ, au lieu de regarder à l'édification, l'avancement, c'est quoi l'avancement de l'œuvre de Dieu dans la foi? C'est que les chrétiens deviennent semblables à Christ. C'est que l'amour dans l'Église s'épanouisse de plus en plus concrètement. C'est que la foi des chrétiens soit de plus en plus solide dans les Écritures, une foi indestructible dans le grand Dieu et dans sa parole. C'est que les incroyants puissent être sauvés aussi et s'ajouter comme des pierres vivantes. Voilà l'œuvre de Dieu dans la foi. Tout ce qui est autour ne mérite pas la première place. Bien sûr, dans le culte, il y a la louange, on a besoin de musique. Il faut s'occuper des enfants. Dans les messages, parfois, on a besoin d'archéologie pour expliquer une chose ou défendre la Bible, etc. Mais ces choses doivent rester à leur place et on doit se dire, est-ce que je suis en train d'avancer l'œuvre de Dieu dans la foi? Paul continue au verset 5. Le but de cette recommandation, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Alors là, il y a un petit débat sur le mot « recommandation ». Certains, comme Second, l'ont interprété le but de mon exhortation, c'est l'amour venant d'un cœur pur. Et puis, il y a d'autres qui voient dans ce mot qui est utilisé le but de la loi, c'est un amour venant d'un cœur pur. Pourquoi? Parce que juste après, il va parler de la loi. Et que ces faux docteurs-là, ces gens qui troublaient l'Église, parlaient de la loi et des détails de la loi, et chipotaient et discutaient sans arrêt, et ils troublaient l'Église par leurs discussions sur la loi. Quoi qu'il en soit, ils pointent vers le but. Et là, au verset 5, c'est quoi le but? Pardon? Oui? C'est l'amour. Le but, c'est l'amour. Parmi les judaïsants, il y avait des gens très, très légalistes. Et Paul savait ce que c'était, puisqu'il avait été lui-même un pharisien, un des responsables pharisiens. Donc, il était à fond dans ses discussions sur la loi. Ils pouvaient discuter des jours, des heures. Ils avaient des tomes et des tomes de livres écrits par des rabbins sur un détail de la Torah. Sur le Shabbat en particulier, le Shabbat était le thème principal. Est-ce que je dois me laver les mains? Est-ce que je dois... Combien de mètres puis-je faire le jour du Shabbat? Est-ce que je peux sauver ma brebis si elle tombe? Est-ce que je peux sauver... aller porter mon enfant au docteur si... Et ils n'en finissaient plus, et des questions et des questions. Et leur obsession, c'était de ne pas transgresser le sabbat. Alors que le sabbat n'a pas été fait dans ce but-là. Le but de Dieu dans le sabbat, c'est que c'est passer du temps avec son peuple. Le sabbat, c'est un jour de repos que Dieu a instauré pour être dans le repos avec Dieu. C'est un moment béni. C'est pas un moment où on se dit « Oh, est-ce que je suis en train de transgresser? Est-ce que j'ai pas le droit? » On s'enferme chez soi, on se barricade et on fait plus rien. On est dans la peur perpétuelle que Dieu nous tombe dessus. Non, le Shabbat, c'était un moment d'amour avec Dieu, justement, le repos. Aujourd'hui, nous chrétiens, nous n'avons pas de Shabbat le samedi, mais nous avons le jour du Seigneur, le dimanche. Et pendant ce jour, même si on ne se repose pas beaucoup, on veut prendre le temps avec le Seigneur. C'est un jour qu'on met à part pour passer du temps avec lui. Est-ce que c'est comme ça que vous comprenez le dimanche? Est-ce que vous venez le dimanche en disant « je veux passer du temps avec le Seigneur et mes frères et sœurs » Parce que quand on est réunis entre frères et sœurs, le Seigneur est là plus, un peu plus si on peut dire, parce que l'Esprit de Dieu nous remplit tous ensemble. Le but de cette recommandation, c'est un amour. Là, pardon. Il dit « venant d'un cœur pur et d'une bonne conscience et d'une foi sincère ». Voyez-vous, on peut avoir ou rechercher la richesse, rechercher la gloire. On peut rechercher la puissance, le pouvoir, toutes sortes de choses. Mais il y a des choses qui ont beaucoup plus de valeur, qui comptent vraiment dans la vie. Ce qui compte, c'est un cœur pur, une bonne conscience et une foi sincère. C'est le verset 5. Et il va parler beaucoup de la conscience dans cet épître. D'avoir une bonne conscience. Ces gens qui étaient dans le légalisme et qui chipotaient tous les articles de la loi de Moïse n'avaient jamais une bonne conscience parce qu'ils étaient tout le temps en train de se demander s'ils avaient transgressé. Et ils troublaient la conscience des autres en disant « Mais tu n'es pas un bon chrétien. Tu n'es pas un bon juif. Est-ce que tu t'es fait circoncire, toi, païen ? Mais moi, je suis grec, pourquoi je vais me faire circoncire ? Mais il faut être circoncis pour être sauvé. Et est-ce que tu respectes le Shabbat le samedi ? Ben, non, nous, on va à l'église le dimanche. Et le samedi, c'est dans la loi. Et donc, ils étaient en train de troubler leurs frères et sœurs par des questions de légalisme perpétuel. Et personne n'avait une bonne conscience dans l'église, puisque tout le monde s'accusait les uns les autres et se sentait coupable. Or, pour Dieu, il y a une chose qui compte vraiment, c'est que ses enfants, son peuple, aient une bonne conscience. C'est-à-dire, non pas qu'on se donne une bonne conscience, parce que ça, on est capable de se le faire, hein, en disant, en se rassurant, ah ben moi, je suis un bon chrétien, je mets ma cravate le dimanche et je m'habille bien, et je vais à l'église, et en se rassurant. C'est pas ça une bonne conscience, c'est vraiment une bonne conscience qui vient de Dieu, où lorsqu'on se tient devant Dieu, il n'y a rien entre lui et nous. Est-ce que je peux dire maintenant, voilà, il n'y a rien entre moi et mon Dieu. J'ai une bonne conscience. Bien sûr, dans la journée, j'ai commis des péchés. Dans la journée, je n'ai pas toujours obéi à 100% au Seigneur. Mais qu'est-ce que le Seigneur a donné pour cela? Il a donné son Fils qui a versé son sang. Il est dit, le sang précieux de Christ nous purifie. Un chrétien doit toujours marcher avec une bonne conscience, parce que cette bonne conscience va le garder dans la vie. Quand on a mauvaise conscience, on fait des mauvaises choses. Beaucoup de gens commettent des délits ou des crimes parce qu'ils ont mauvaise conscience au départ. C'est presque pour satisfaire leur mauvaise conscience ou pour se justifier. Quelqu'un qui a une bonne conscience, il n'a pas envie de pécher. Parce que c'est comme si on vous offre un chemisier ou une chemise pour les hommes d'un blanc immaculé. Mais vraiment, c'est même sans lumière, ça brille dans la nuit. Hein, c'est quelque chose de magnifique. Et on vous dit, tu vas porter ça le dimanche. Bon. Si c'est d'un blanc immaculé, vous allez faire très attention de ne pas mettre de sauce tomate quand vous allez manger vos spaghettis ou votre poulet au curry, ou vos framboises. Vous allez garder votre chemise. Pourquoi ? Parce qu'elle est toute blanche, vous voulez qu'elle le demeure. Par contre, si on vous offre un vêtement taché, hein, on dit voilà, ben ça c'est mon vêtement de travail, je te le prête, qu'on rajoute une tache de plus, on n'est pas à ça près. Et la conscience a cet aspect. Lorsqu'elle est pure, lorsqu'elle est pardonnée, lorsqu'elle est en règle, on veut la garder comme ça. Mais lorsqu'elle est souillée, on se dit, oh, une souillure de plus ou de moins. Et c'est comme ça que des chrétiens sombrent dans le péché de plus en plus, parce que leur conscience est souillée. Ils se disent, oh, après tout, ben non, au point où j'en suis, autant y aller à fond. Alors que si vous avez une conscience pure, vous dites, oh, c'est un cadeau de Dieu, cette conscience pure, je veux la garder immaculée. Or, cette conscience pure, on peut l'avoir à tout moment, grâce au sang précieux de Christ. Paul continue en disant, « Quelques-uns s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi, et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. » On pourrait penser que Paul est un peu orgueilleux, en disant de ces personnes qui ne comprennent rien à rien, mais je vous rappelle qu'il connaissait la loi par cœur. En tant que pharisien, disciple de Gamaliel, c'était un super étudiant de la loi, de la Torah, de tous les détails. Mais en plus, il connaissait Christ. Il était un envoyé de Christ. Il avait vu Christ ressuscité. Et donc, il dit, ces gens veulent être enseignants de la loi, mais ils ne comprennent rien. Pourquoi ? Parce que ces gens voyaient la loi comme un moyen de se justifier. Mais comme personne n'obéit parfaitement à la loi, personne ne se trouvait justifié. Et donc, ces docteurs de la loi décourageaient tout le monde et culpabilisaient tout le monde. D'ailleurs, dans le judaïsme orthodoxe, hein, vous êtes en perpétuelle culpabilité. Particulièrement les femmes, elles sont très visées, elles ne font jamais ce qu'il faut. Elles ne sont jamais pures, elles sont toujours impures. Et cette culpabilisation permanente vous éloigne de Dieu. Alors, d'un côté, ça paraît sérieux. On dit, waouh, ça c'est quelqu'un, il prend les choses de la Bible au sérieux. Il veut vraiment marcher selon la loi. Et on peut penser à certains extrémistes aussi dans l'islam, hein, ou dans le catholicisme, etc. Mais en fait, ce n'est pas ce que Dieu veut. Ils n'ont rien compris à la loi. Et Paul va nous expliquer à quoi sert la loi. Et là, ce n'est pas seulement la loi de Moïse dont il parle, hein, c'est la loi morale en général. Donc c'est au verset 8. « Nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. » Alors, il fait une introduction en disant « Attention, je ne suis pas en train de dire que la loi ne sert à rien, on peut faire ce qu'on veut avec la loi et qu'il faut la transgresser comme on veut. » Non, la loi est bonne, mais il faut bien l'utiliser. « Nous savons que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles, les impies, les pécheurs, les irréligieux, les profanes, les parricides, les meurtriers, les débauchés, les homosexuels, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire à la saine doctrine. » Donc la loi est pour celui qui ne marche pas avec Dieu. La loi est pour l'homme rebelle, pour lui dire, voilà la voie droite, voilà ce que tu devrais faire, et toi tu es pécheur. La loi est là pour révéler quelque part notre péché, c'est vrai. Mais elle ne peut pas nous pardonner, nous justifier, nous rendre justes, c'est pas possible. Il faut qu'il y ait autre chose. Vous avez remarqué qu'il y a de plus en plus de lois dans nos sociétés? L'Assemblée nationale pond je ne sais pas combien de dizaines de décrets pendant toute une année. Et ça n'en finit plus. Et au point que les gens qui s'occupent les avocats et les juges n'arrivent plus à suivre. Dans les administrations, ils n'arrivent plus à suivre les décrets. Ils sont obligés de changer de livres qui sont épais comme ça. Tous les ans, ah ben non, on a changé, ceux-là on les a enlevés, les autres on les a rajoutés. Pourquoi y a-t-il tant de lois? Parce qu'il y a de plus en plus de transgresseurs. Pourquoi est-ce qu'on a dû faire un code de la route avec des feux rouges et des stops et etc. Parce que les gens se rentreraient dedans tout le temps. Pourquoi on se rentrerait dedans? Parce que chacun voudrait passer le premier. Voilà, par égoïsme ou orgueil. Comment arrivent beaucoup d'accidents? Par égoïsme et orgueil. Beaucoup d'accidents, hein? Mais si vous êtes courtois, vous dites à l'autre, mais je vous en prie, passez le premier. Est-ce que ça existe encore en voiture? Je suis frappé, même dans les transports en commun, les hommes ne tiennent plus la porte aux femmes. Ça, c'est la. L'égalité des femmes, voilà ce qu'elles ont obtenu en cherchant l'égalité, c'est qu'elles se prennent des portes dans la figure. Alors qu'avant, un homme se devait d'être courtois, de tenir la porte, si c'était, ou de laisser sa place à une dame. Ouais, c'est dommage que ça ait disparu, ces choses-là. Quand il n'y a plus la courtoisie, l'humilité et l'amour même, hein, au plus haut niveau, on est obligé de mettre des lois pour encadrer tout le monde. Sinon, tout le monde se tape dessus. Et puis, il y a les petits malins qui contournent les lois. Alors, comme ils contournent la loi, on est obligé de faire un décret supplémentaire pour les empêcher de passer à droite. Et puis, comme ils passent à gauche, et ensuite ils rentrent par la fenêtre, il faut mettre des décrets dans tous les sens pour les bloquer. Ce qui fait qu'on est complètement noyé sous des décrets de loi, on n'en peut plus, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui ne veulent plus obéir à la loi. Ici, il fait une liste qui n'est pas exhaustive, hein. Il prend les choses les plus graves, à son avis, les méchants et les rebelles, les impies, c'est-à-dire ceux qui n'ont aucune foi, les pécheurs, bon, c'est très général, les irréligieux, les profanes, les parricides, donc ceux qui tuent leurs parents. Mais en fait, le mot là peut être interprété aussi ceux qui méprisent leurs parents. L'idée, c'est ceux qui frappent leurs parents dans le mot là. Et. Frapper, ça peut vouloir aussi dire voilà, être tellement rebelle à ses parents qu'on les frappe ou qu'on les méprise ou qu'on les tue. Les meurtriers, les débauchés, donc ça c'est la pornographie, les homosexuels, c'est bien le mot qui est utilisé, c'est pour les hommes en particulier. L'homosexualité dans la Bible est considérée comme un péché, partout. Il n'y a aucun verset qui dit le contraire. Et on peut penser ce qu'on veut. On peut vivre toutes sortes d'expériences. L'homosexualité est un péché. Ça mériterait toute une étude, hein, biblique. Ce n'est pas le pire des péchés, mais c'est un péché assez grave pour qu'il soit dans cette liste et pour que Sodome et Gomorre aient été détruites par un jugement spécial. Et en fait, ce qui est grave, ce n'est pas seulement ce que fait la personne, mais c'est que c'est un symptôme. Que la société est à un point de décadence profond. Chaque fois qu'une société a vu le nombre d'homosexuels se multiplier, elle était au bord du gouffre, tout près de la fin. Que ce soit l'Empire grec ou romain, c'est flagrant. L'homosexualité a explosé chez les Grecs et les Romains peu avant que l'Empire romain s'effondre. Et c'était pas seulement l'homosexualité, c'était le culte du corps, hein. Les Grecs particulièrement nous ont légué toutes ces statues avec des corps parfaits. C'est des corps qui n'existent pas, les statues grecques. Ils sont tellement parfaits que ça n'existe pas dans la réalité. Nos corps sont très loin d'être parfaits. Nos visages, vous avez remarqué qu'on a deux faces, hein. Si vous coupez votre visage en deux, vous êtes deux personnes là. Donc, alors que les Grecs faisaient un visage absolument symétrique, parfait, les muscles étaient tout bien développé. Il y en a qui essayent de le faire dans les salles de musculation, mais c'est très difficile. Et ça devient une obsession du corps. La chirurgie esthétique, il y a des gens maintenant qui n'ont presque plus rien de leur départ. Ils ont tout changé. sans parler des tatouages et des piercings qui en rajoutent en plus, il y a vraiment un culte déviant du corps. Et l'homosexualité est liée à ça aussi. Où la sexualité prend le pas sur toute autre chose. D'ailleurs, on appelle ça l'homosexualité. C'est défini par sa sexualité. Alors, j'ai connu des homosexuels qui étaient... ça ne change rien au fait qu'ils peuvent être très gentils, très doués. Ça ne les rabaisse pas au point de vue humain. Ils ne sont pas forcément des gens pervers. Il y a des pervers et il y en a qui ne le sont pas du tout, qui même essayent de vivre en couple. Mais ça n'empêche que l'homosexualité, au départ, est une déviation contre nature que Dieu ne veut pas et qui est un péché que Dieu veut pardonner. Les voleurs d'hommes, c'est la suite dans la liste, c'est les kidnappeurs. On n'en parle pas beaucoup, hein, mais la Bible en parle des voleurs d'hommes. Il y avait beaucoup de kidnapping à l'époque, et ça continue. Hein. Les gens qui kidnappent les gens pour en faire des esclaves ou pour en faire des prostituées, etc., ça existait déjà, ça existe encore. Et c'est un péché très grave. Et la loi est là pour arrêter ces gens-là. Les menteurs, là il y a du travail, les parjures, et tout ce qui est contraire à la saine doctrine. La loi est là pour arrêter le mal. Elle est là pour dénoncer le mal. Elle est là pour ceux qui sont rebelles, qui s'éloignent de Dieu. Mais celui qui veut marcher avec Dieu, il ne doit pas s'attacher à la loi, il doit aller avec quelque chose de supérieur. Et ce qui est supérieur, c'est la loi de Christ. Et la loi de Christ, c'est... Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est l'amour. Parce que quand vous êtes dans l'amour, quand vous pratiquez l'amour de Christ, vous ne faites pas de mal à votre prochain. C'est ce qu'on avait vu en long et en large au camp, très bien développé par Jean-Alain. Quand vous aimez, vous ne faites pas de mal. Donc vous n'avez plus besoin d'articles de loi pour vous dire « ne tue pas ». J'ai pas envie de le tuer, je l'aime. Pourquoi je vais le tuer ? Ne blasphème pas contre Dieu, mais j'aime Dieu, pourquoi je vais blasphémer contre Dieu ? On n'a plus besoin de la loi quelque part. C'est pour ça qu'il dit aux chrétiens, vous n'êtes plus sous la loi de Moïse, hein, vous êtes sous la grâce. Et la grâce, elle transforme notre cœur. Notre cœur qui était rebelle, justement, qui ne voulait pas obéir à Dieu, a été transformé quand on a cru en Jésus-Christ. Et du coup, maintenant, on a envie de plaire à Dieu, d'aimer, parce qu'on a l'amour de Dieu dans nos cœurs. Et on n'a plus besoin que des lois nous disent « fais ci ou fais ça ». Il y a des chrétiens qui essaient de se rassurer avec des lois, des préceptes dans l'Église, du légalisme. Ils disent « voilà comment les femmes doivent s'habiller, à quelle longueur doivent être les cheveux, voilà ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire ». Et ils ont toute une liste de lois et les chrétiens vivent un peu dans la culpabilité et la crainte au lieu d'être dans l'amour et la grâce. Alors il faut un équilibre. La Bible dit qu'on ne doit pas être non plus sans loi, où on dit, ah ben moi je suis dans l'esprit, donc je peux faire ce que je veux dans l'esprit, n'est-ce pas ? Ça, c'est un piège du diable. Ce n'est pas parce que je suis dans l'esprit que je fais n'importe quoi. Quand je suis dans l'esprit, c'est dans l'esprit de Jésus-Christ. Et je vais faire la volonté de sa parole. Qu'est-ce qui compte le plus ? Est-ce que c'est les articles de loi ? Est-ce que c'est fais pas ci, hein, fais ça ? Attention, c'est interdit, c'est pas interdit. Qu'est-ce qui compte ? Est-ce que c'est les batailles de doctrine ou de généalogie, de fables ? Est-ce que c'est ça qui fait avancer l'œuvre de Dieu ? Non. Ce qui compte vraiment, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Le Seigneur veut nous donner ces choses gratuitement. Ce cœur pur, cette bonne conscience, cette foi sincère. Si nous les gardons comme des trésors, hein, en essayant qu'ils ne soient jamais tachés, que notre conscience reste toujours pure, en paix avec le Seigneur et avec les frères et sœurs, nous aurons une vie bénie qui bénira les autres, une vie paisible, et notre Église prospérera parce qu'elle aura des plantes en bonne santé. Mais si nous commençons à nous quereller ou à discuter de choses qui n'ont pas d'intérêt dans l'œuvre de Dieu, alors nous nous éloignons du but du Seigneur pour nous. Voilà, j'ai terminé pour ce soir. Est-ce qu'il y a un cantique que vous aimeriez chanter?